Merci beaucoup. Encore une fois, merci pour votre accueil et merci aux responsables pour leur confiance en m'ayant invité. Vous avez vu que le premier soir, je portais un A et je pense que ce n'était pas usurpé. Je suis un apprenti et je veux me laisser conduire par le Seigneur. Plusieurs ont demandé qu'est-ce que c'était que le petit logo PDM qui se trouve en bas. Donc, je fais un petit peu de publicité pour mon blog, qui s'appelle paroledementor.com et qui a comme thème et comme ligne éditoriale pour une spiritualité et un leadership à l'image de Jésus. Vous avez compris que c'est ce que je veux développer à l'avenir. En particulier, vous trouverez une rubrique invité et je suis très content que d'autres serviteurs de Dieu me fassent confiance et me confient leurs articles pour qu'ensemble on puisse faire la promotion de cette spiritualité, de ce leadership à l'image de Jésus-Christ. Quatrième et dernière conférence, mieux se connaître et être accompagné. J'ai mis comme punchline, entièrement saint, qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps. Alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas trichotomiste pour autant, mais je veux parler surtout de cette nécessité d'être globalement gardé en Christ. Et nous allons voir que nous avons besoin de mieux nous connaître et d'être accompagné. Vous vous rappelez de mes trois cercle, le silence et l'écoute de Dieu, tu l'as rappelé, la repentance continue. Et maintenant, nous allons voir le troisième cercle, ce que j'appelle la conformation. Et vous voyez que l'illustration, c'est un funambule. Parce que c'est compliqué d'être équilibré pour être à l'image de Christ. La conformation, ça veut dire de quoi sommes-nous formés ? Dieu nous a créés à son image. Et nous sommes constitués de certains éléments spirituels, émotionnels, relationnels, cognitifs et physiques. Beaucoup d'auteurs se retrouvent sur cette définition de ce qui nous constitue. Donc nous sommes conformés de ces cinq éléments, nous allons les étudier tous ce matin. Mais j'ai bien aimé choisir le mot conformation, parce que derrière, dans notre équilibre, nous devrions être conformes à Jésus-Christ. Comment est-ce que nous fonctionnons ? Nous sommes constitués de cinq réservoirs. Nous avons un réservoir avec des besoins physiques, un réservoir avec des besoins émotionnels, un réservoir avec des besoins spirituels, un réservoir avec des besoins relationnels, un réservoir avec des besoins cognitifs. Et c'est dans et qui alimente le tout une batterie principale. Et c'est dans la mesure où nous remplissons de manière continue, dans l'équilibre, notre réservoir, notre batterie principale par ces différents réservoirs, que nous allons être équilibrés à la manière de Christ. Alors si on prend le réservoir physique, eh bien, c'est celui que je traiterai un tout petit peu plus tard, excusez-moi. Si on prend le réservoir spirituel, nous en avons longuement parlé pendant le début de ce congrès. On a parlé de l'écoute, de la nécessité de silence, d'être en relation personnelle avec Dieu, de contempler, d'avoir une relation vraiment renouvelée et rafraîchie avec Christ. Nous avons parlé de la repentance, nous avons parlé de la vulnérabilité. Et quelqu'un m'a dit tout à l'heure, est-ce que vous savez comment on dit vulnérabilité en langue des signes ? En langue des signes, la vulnérabilité, c'est comme ça. C'est j'ouvre mon cœur. Je suis qui je suis. Mais je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure. Nous avons aussi un réservoir cognitif. Qu'est-ce que ça veut dire, un réservoir cognitif ? Ça veut dire que nous devons toujours être en train d'alimenter notre réflexion intellectuelle. En particulier quand nous sommes des leaders. Nous devons réfléchir comment mieux servir, comment mieux accomplir notre ministère. C'est Gordon MacDonald qui dit « Si nous développons notre intellect, ce n'est pas seulement pour notre propre avancement professionnel, mais c'est aussi pour servir les autres. C'est ce que je garde à l'esprit quand je me discipline à lire, à archiver, à recueillir de la matière première. Un jour, cette matière première alimentera des sermons et des livres qui encourageront les autres et nourriront leur intellect. » Si je développe mon intellect, je peux aussi aider d'autres à faire de même. Pas mal l'idée de dire, je me nourris pour nourrir les autres. Je réfléchis pour partager mes réflexions aux autres. Je ne fais pas ça simplement pour avoir le melon, la grosse tête, parce que j'ai beaucoup de connaissances. Non, nous sommes des leaders chrétiens, nous sommes au service des autres, et nous pouvons mettre en commun ce que nous recevons. Pour ma part, je continue à lire des livres, vous avez vu, j'en cite pas mal. J'ai entrepris une formation d'accompagnateur spirituel, et même quand on est âgé, on peut continuer à piocher la question, à se nourrir. Et bien sûr, nous avons un réservoir physique. Et en tant que mentor, je pose souvent des questions à mes protégés sur leur équilibre physique. Je me rappelle d'un de mes protégés qui me disait « Ouais, j'ai un peu mal au dos, là, mais bon, c'est un gars un peu costaud qui ne se plaint pas trop. » Un jour, je lui ai dit « Écoute, moi, ça ne me plaît pas, tu me parles régulièrement de ton mal de dos, tu devrais aller voir un spécialiste. » Il a passé après 6 mois à l'hôpital, il avait quelque chose. Fallait aussi l'encourager à prendre soin de son corps. Parfois, je demande à certains de mes protégés, tu dors bien, tu prends du temps pour ton sommeil, tu prends du temps pour ton alimentation. Vous savez, parfois dans le feu de l'action. Hein. Et le sabbat fait partie aussi, enfin, le sabbat est plus large que le physique, mais je vais le traiter maintenant. Un ami m'a raconté que un de ses copains, pasteur, que je connais par ailleurs très bien, il rencontre son ami et lui dit « Comment vas-tu ?» Et le gars lui « Maintenant, je vais bien. » « Ah bon, pourquoi tu n'allais pas bien avant ?»« Non, je n'étais pas très en forme, je suis allé voir mon médecin et mon médecin m'a dit « Monsieur le pasteur, est-ce que vous prenez des jours de congé ?»« Oui, enfin, je prends une demi-journée par-ci, par-là. » Et le médecin lui a répondu « Écoutez, moi je ne suis pas croyant, mais il semblerait que dans votre Bible, votre Dieu a pris un jour de congé après son boulot et moi je pense que vous devriez faire pareil. » Ça pique, hein? Ça pique. Et nous avons parlé du sabbat au séminaire du réseau FEF. Et alors, bien sûr, tout le monde dit, ouais, le sabbat, moi, bon, il y a plein de visions, mais bon. Et il y a un gars qui a dit, si pour le sabbat, vous prenez qu'une demi-journée de repos, est-ce que vous dites que c'est un sabbat? Vous diriez de l'adultère que c'est un demi-adultère? Ouh! Que faisons-nous des commandements de Dieu? Je sais qu'il y a plusieurs manières de gérer le sabbat, plusieurs manières de le pratiquer, mais je sais aussi que la question revient souvent chez mes protégés, parce qu'il est très difficile pour eux de le mettre en place. Pourtant, je pense que c'est une clé de notre équilibre à l'image de Christ. Et je voudrais juste vous lire un petit peu ce que dit Tim Keller sur ce point. Vous pouvez suivre avec moi. Le travail et le repos sont liés par une relation d'interdépendance. Bien sûr, tout le monde comprend cela à un certain niveau. Nous quittons le travail dans le but de restaurer corps et âme. Le repos ou le sabbat est aussi un moyen de prendre du recul sur notre travail et de le mettre à la bonne place. Il arrive souvent que l'on ait des difficultés à percevoir notre travail objectivement avant de prendre quelques distances et de nous immerger dans d'autres activités. Nous saisissons alors qu'il y a plus dans la vie que le travail. Grâce à ce recul et au repos du corps et de l'esprit, nous retournons à notre tâche avec plus d'efficacité. Mais la relation entre le travail et le repos s'opère aussi à un niveau plus profond. Nous sommes tous préoccupés par un travail caché, sous le travail, c'est-à-dire le besoin de faire nos preuves et d'acquérir notre salut, de gagner une impression de dignité et d'identité. Mais si nous pouvions expérimenter le repos de l'Évangile dans nos cœurs, si nous pouvions nous libérer du désir de mériter notre salut à travers le travail, nous aurions alors à notre disposition un réservoir de rafraîchissement immense qui nous régénérerait continuellement, réorienterait notre point de vue et renouvellerait notre passion. Waouh ! Est-ce que vous travaillez pour un travail qui est sous votre travail? Confirmer qui vous êtes. Faire vos preuves. Convaincre les autres. Si c'est ça, ce n'est pas l'image de Christ. Christ se savait le Fils bien-aimé de Dieu et c'était ça son identité. Il n'avait pas besoin d'en faire plus. Nous aussi, nous sommes des filles et des fils bien-aimés de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'en faire plus pour mériter quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et pour clore cette question du sabbat, j'aime beaucoup ce que dit MacDonald. Le monde et l'Église ont besoin de chrétiens véritablement reposés. Ha ! Tiens, c'est nouveau ça, on croyait qu'on avait besoin d'enthousiasme, on croyait qu'on avait besoin fort en théologie. Non, lui il dit de gens reposés. De chrétiens qui sont régulièrement renouvelés par le sabbat. Et non uniquement par leurs loisirs ou leur temps libre. La pratique du sabbat de Dieu permet aux chrétiens de donner une pleine mesure. Nous découvrons à quel point ils sont forts et résilients. Et si vous êtes des leaders, je vous pose la question. Êtes-vous à l'image de Christ, capable de montrer que vous êtes des hommes, des femmes reposés? Et du coup, vous allez faire envie à d'autres. Parce que vous savez ce que pensent les jeunes. Si être ancien dans une église, c'est en prendre pour 15 ans et pas avoir une seule soirée de libre. Non, hein. Ça on veut pas. Hein. Si c'est être pasteur et finir au bord du burn-out. Ah non, hein, ça on n'a pas envie. Et je suis pas sûr qu'ils aient tort. Remplir notre réservoir physique nous développe à l'image de Christ. Et il y a un réservoir émotionnel. Et celui-là, je vais m'y arrêter plus particulièrement. C'est un sujet plus vaste. Et l'idée centrale des textes bibliques est de convaincre les lecteurs non seulement de ce qu'ils doivent penser, orthodoxie, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans notre première conférence, j'avais parlé d'orthodoxie, orthopraxie et orthopathie. J'ai dit, on va y revenir. Et ben, on y est. Ce qu'ils doivent faire, orthopraxie, mais aussi de ce qu'ils doivent désirer, orthopathie. Pour le dire autrement, le texte contribue à l'apprentissage intellectuel et affectif qui vise à développer des sensibilités émotionnelles et morales et atteindre un engagement profond à certaines valeurs. Cette notion d'orthodoxie, d'orthopraxie et d'orthopathie a été introduite par Wesley. Et nous connaissons très très bien l'orthodoxie. Nous savons que nous devons penser juste. Nous devons penser la bonne théologie. Et je n'ai pas l'impression que sur ce point, on soit en danger. Encore que, il faut toujours travailler notre théologie. L'orthopraxie, nous entendons beaucoup de messages sur ce qu'un chrétien doit faire. Et nous avons une bonne idée, je pense, malgré tout, de ce que nous devons, comment nous devons nous comporter, même si parfois nous avons du mal à nous ajuster, mais cette idée d'orthopraxie est assez bien acceptée. Par contre, l'orthopathie. Orthopathie. Ortho, bon, pathie, vous savez, passion, dans sympathie, antipathie, c'est ça. Donc c'est les sentiments, les émotions, les choses que nous éprouvons. Que nous dit la Bible à propos de l'orthopathie? Elle nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et la grande question c'est « Qu'est-ce que nous faisons de nos émotions, de nos sentiments? Sont-ils à l'image de Jésus-Christ? Sommes-nous guéris et sommes-nous contrôlés par le Saint-Esprit ? » Ignorer nos émotions équivaut à tourner le dos à la réalité. Mais l'écoute de nos émotions nous introduit dans la réalité. Et la réalité est l'endroit où nous rencontrons Dieu. Les émotions sont le langage de l'âme. Elles sont l'appel du cœur. Pourtant, nous faisons souvent la sourde oreille, soit en pratiquant le déni émotionnel, soit en déformant les faits, ou en affichant une apparente indifférence. Nous éliminons tout ce qui nous perturbe, afin de pouvoir exercer un contrôle sur notre monde intérieur. Et qui devrait contrôler notre monde intérieur ? Nous ou le Saint-Esprit ? Tout ce qui glisse dans notre champ conscient nous effraie et nous confond. En négligeant ainsi nos émotions intenses, nous nous mentons à nous-mêmes et nous passons à côté d'une formidable occasion de connaître Dieu. Nous oublions que le changement passe nécessairement par une honnêteté radicale et l'aveu à Dieu de notre vulnérabilité. Tiens, nous y voilà. Notre vulnérabilité concerne nos émotions. Qu'est-ce que nous pouvons dire de la santé émotionnelle ? Eh bien, Martin Sanders, le co-auteur de mon livre sur Multiplier les leaders, écrit qu'il est essentiel de contrôler notre niveau physique, spirituel, ça tout le monde est d'accord, mais également de comprendre et de maintenir pleines nos réserves émotionnelles. Vous vous rappelez mon réservoir avec nos besoins émotionnels. Et c'est mon collègue Peter Scarzero, dont j'ai fait la connaissance aux États-Unis, il fait partie de la même communauté de mentors que moi, lui donne 5 aspects sur lesquels nous devrions travailler notre réservoir et notre santé émotionnelle. Les 5 clés de Peter. Creuser sous la surface des choses. Qui suis-je ? Qu'est-ce que Dieu veut changer en moi ? Pourquoi certains leaders ont-ils des comportements toxiques ? Pourquoi est-ce qu'ils ne réalisent pas là où ça bug et que personne ne leur dit ? Il est possible de progresser à la ressemblance de Jésus, mais à condition de se poser des questions : pourquoi je réagis comme ça ? Parfois, j'ai encouragé hier à la nécessité de la repentance. C'est vrai que nous devons, quand le Saint-Esprit ou quelqu'un nous montre une faille, nous devons dire « c'est vrai, tu as raison, j'ai eu tort ». Mais parfois nous devrions nous demander « pourquoi j'ai réagi comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de mon cœur ? » Est-ce que nous travaillons à la connaissance de nous-mêmes ? Saint Augustin priait « Dieu connaît toujours le même, Dieu toujours le même, faites que je me connaisse et que je vous connaisse. » Pas mal. Pas seulement connaître Dieu, me connaître aussi. J'ai commencé une formation d'accompagnateur spirituel et je suis très reconnaissant, même en fin de carrière, de découvrir ce que je découvre sur moi-même. Je vais prendre un exemple tout simple. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui vous connecte à Dieu ? Pour certaines personnes, c'est la louange. Pour d'autres, c'est des relations avec d'autres personnes. Et j'ai découvert que, pour moi, la nature était un moyen qui me permettait de me connecter à Dieu. Et j'ai toujours dit, ça c'est moi la nature, je m'en fiche. Hein. Moi, la nature, j'ai autre chose à faire que de me balader dans la nature. Hein. Sauf que quand j'ai travaillé sur la connaissance de moi et que j'ai découvert que la nature peut m'aider à louer Dieu, je me suis mis à réfléchir. Et j'ai réalisé, à mon âge, un truc que j'aurais pu apprendre beaucoup plus tôt. C'est vrai, quand je fais une marche de prière, au bout de 10 minutes, je m'arrête, et je suis obligé de louer Dieu. C'est plus fort que moi. Et maintenant, je viens de découvrir que c'est comme ça que je fonctionne. Alors, je peux le développer. Alors, je peux m'en servir. Et quand je marche, au bout de 10 minutes, je dis, « Ah, Seigneur, c'est le bon moment. On est ensemble. » Il y a des choses à creuser dans notre caractère. Moi, je suis un adepte de la procrastination. Pourquoi je réagis comme ça ? Ah, il n'y a personne, oui, je suis le seul. Ah ouais, je vois. Ah ouais. Mais on ne peut pas simplement demander pardon. Vous comprenez ce que je veux dire ? On doit se connaître, on doit travailler ça. Pourquoi certains sont perfectionnistes ? Pourquoi certains sont des fous de boulot ? J'ai une très bonne amie à moi avec laquelle je collabore, qui a découvert que son péché, c'était outrepasser, c'était la boulimie, mais pas seulement la boulimie, seulement manger. C'était toujours travailler, toujours travailler, toujours travailler. Et les gens lui disaient, « Ouais, mais t'es orgueilleuse, tu veux réussir des trucs et tout. » Et elle disait, « Mais si je me repens pour mon orgueil, ça va pas, c'est pas ça. » Et quand elle a compris qu'elle était insatisfaite profondément, s'est approché du Seigneur. Toi, tu peux me donner la satisfaction. Je n'ai pas besoin de faire mes preuves par mon boulot. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de creuser sur la surface des choses? Un des plus grands obstacles à la connaissance de Dieu est notre manque de connaissance de nous-mêmes. Ainsi, nous finissons par porter un masque devant Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes et devant les autres, et ça rejoint ce qu'on disait hier. Et nous ne pouvons devenir conscients de nous-mêmes si nous éteignons notre humanité par peur de nos sentiments. Cette peur conduit à un refus de nous connaître nous-mêmes tels que nous sommes vraiment et retarde notre développement à la croissance de Christ et à sa ressemblance. On a du boulot, les amis. Le deuxième point de Peter Scarcero, c'est mettre fin à la tyrannie du passé. Et hier, j'ai évoqué les voiles, vous savez, les voiles qu'on met sur soi, etc. Et j'ai dit que j'allais revenir sur la question des voiles du passé. Certains serviteurs font comme si tout allait bien et portent pourtant un voile sur leur vie privée et sur leur passé. Parce qu'ils conservent en eux-mêmes le sentiment d'un événement ou d'une série d'événements qui leur est arrivé dans le passé et qui les a blessés. Et parfois nous avançons avec une culpabilité constante, un secret que nous gardons en nous-mêmes et une peur constante que ces événements viennent à la lumière et ruinent notre réputation, l'image ou le ministère. Gordon MacDonald estime que 40% des hommes, pardon, la moitié des hommes de 40 ans aux USA tiennent un secret sur leur passé. Et il dit que ces personnes ont la certitude que la révélation de ce secret aurait des répercussions catastrophiques, aussi bien pour eux-mêmes que pour leurs proches. J'en conclus, dit-il, que beaucoup de gens ont une vie intérieure malsaine. Ils s'efforcent de vivre comme si ça n'était jamais arrivé. Ces porteurs de secrets nourrissent l'espérance que jamais quelqu'un va apprendre ce qui s'est passé. Je vous encourage à ne rien laisser concernant votre passé empoisonner votre présent. Vous vous rappelez de ce que David a dit, psaume 32 : Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Car la nuit et le jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu m'as pardonné mon péché. Et à ce point, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit concernant le premier jour sur les relations spirituelles. Parce qu'on m'a fait observer, tout à fait à juste titre hier soir, que nous devons être transparents, vulnérables, mais que nous ne pouvons pas tout déballer à n'importe qui. Nous risquons de faire des gros dégâts. Et là, ici, je vous rappelle que Dieu a mis à notre disposition toute une constellation de relations spirituelles. Parmi les différentes relations spirituelles qui commencent dans le couple, dans la famille, dans l'église, l'amitié, le mentorat spirituel développe une constellation de relations mentorales au sein de laquelle une personne, le protégé, cherche à devenir plus comme Christ et s'entoure de mentors qui le guident dans ce processus. Et là, Dieu offre les relations pastorales, l'accompagnement d'un mentor, un accompagnement spirituel, la relation d'aide, le coach, le tuteur, un ami sûr. Si vous avez un combat particulier, choisissez avec qui vous allez en parler. Soyez vulnérable, mais en choisissant bien la personne. Si c'est un élément de votre passé en particulier, trouvez quelqu'un, un pasteur ou quelqu'un qui fait de la relation d'aide. Mais si nous voulons vivre à l'image de Jésus-Christ, nous devons être vulnérables, travailler sur notre vie, travailler sur notre réservoir émotionnel et régler ces questions concernant notre passé. La troisième clé de Peter Scarcero, c'est accepter notre vulnérabilité. J'en ai parlé hier après-midi. J'aime bien parce que Scarcero, lui, utilise les deux termes, de vulnérabilité et d'humilité. Personnellement, je préfère vulnérabilité, mais je trouve que la vulnérabilité est aussi un fruit de l'humilité et l'humilité un fruit de la vulnérabilité. D'ailleurs, j'en profite juste pour une petite illustration. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémané, qu'il a réveillé ses disciples 3 fois pour prier, pour qu'ils prient avec lui, est-ce que vous croyez que Jésus voulait donner un cours sur la prière ? Moi, je crois que Jésus était vulnérable. Il voulait que ses disciples voient son combat. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et il a dit à son père, si c'était possible, que cette coupe passe loin de moi, mais que ta volonté soit faite. Et moi, je crois que Jésus a voulu montrer sa vulnérabilité, plus que de donner un cours sur la prière. La quatrième clé de Skazéro, c'est considérer nos limites comme un don. Les gens en bonne santé émotionnelle savent que Dieu leur a fixé des limites. Ils n'éprouvent donc pas la frénésie ou la jalousie de mener une vie que Dieu ne leur a jamais imposée. Alors quand vous allez vieillir, tous ceux qui n'ont pas encore atteint mon âge, je vous rassure, vous allez devoir gérer cette question. Moi maintenant, je ne peux plus faire un voyage, rentrer de 10 jours en Afrique et le lendemain repartir ailleurs. D'abord, ma femme ne me laissera pas faire ça, et mon corps ne me laisse plus faire ça. Et j'ai dû travailler cette question de mes limites. Comment je vis ça ? Est-ce que je peux considérer mes limites comme un don ? Parce que Dieu m'a créé comme ça. Dieu m'accorde la santé à mon âge. Est-ce que c'est un don ? Et est-ce que j'accepte les limites de ce don ? Jésus a pris en compte les limites de ses disciples. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Jésus a pris conscience de la nécessité de respecter ses limites. Et Skazéro dit, nous comparons souvent notre vie à celle des autres, cherchant à savoir si nous nous en sortons mieux qu'eux. Mais de telles comparaisons n'ont aucune utilité. Nous devons mener notre vie, pas celle d'autrui. Nous devons tenir notre propre coupe. Nous devons veiller sur notre propre équilibre émotionnel et pas sur celui des autres. La cinquième clé de Skazéro, c'est accepter les deuils et les pertes. Skazéro dit, pendant des années, j'ai tué mes pertes sans me rendre compte qu'elles façonnaient mes relations et mon leadership. Dieu cherchait à élargir mon âme et à m'amener à une plus grande maturité, alors que je cherchais à couper court à ma souffrance. Et il a gagné. Moi, je voudrais vous donner un témoignage. Il y a bientôt 2 ans, je suis rentré de Tunisie, je suis arrivé à Charles de Gaulle, j'ai posé mon iPad et mon casque sur ma chaise, et j'ai dit, mais ma valise n'arrive pas, j'ai cherché ma valise, et quand je suis revenu, mon matériel avait disparu. 500 euros à peu près pour le remplacer. Je me suis dit, je vais me faire tirer les oreilles par ma femme. Mais c'était une perte. Je n'arrivais pas à me pardonner cette perte. Et puis, quelque temps après, un certain jour, il y a quelque chose qui a lâché en moi. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je suis entré dans une espèce de mini-dépression. J'étais mal dans ma peau, mais mal dans ma peau. J'aurais voulu pleurer, j'y arrivais pas. J'ai une fille qui vit en Angleterre, qui a deux petites filles, elles sont mignonnes comme tout. Je n'ai pas vu mes petites filles depuis 9 ans. Et je n'ai que très très peu de relations avec ma fille. Et juste avant, étaient arrivées des photos de mes petites filles, et j'ai vu l'aînée qui commençait à avoir des formes, qui grandit, et j'ai dû me dire, eh bien c'est fini. Je n'aurai plus jamais ma petite fille dans les bras. J'aurai peut-être des relations avec une ado, j'aurai peut-être des relations avec une adulte, mais je n'aurai plus jamais ma petite fille dans les bras. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas fait attention à mon orthopathie, à mes sentiments. J'ai fait attention de penser juste à l'égard de ma fille. Je ne veux pas pécher contre elle. Je veux continuer à l'aimer. J'ai fait attention d'avoir une orthopraxie. Elle a eu 40 ans, je lui ai envoyé un beau cadeau. Mais je n'ai pas pris compte de ce qui est au fond de moi. Des pertes, des deuils. Et vous allez dire, ouais, mais entre perdre son iPad et perdre la relation avec ses petits-enfants, il n'y a pas de petite perte, il n'y a pas de petit deuil. Mais il faut que nous arrivions à amener ça à Christ, à être touché par lui. Et c'est rigolo parce qu'au moment où je suis passé par ce moment très difficile, je commençais à lire le livre de Peter Scarzero avec ses 5 choses à travailler. Et j'ai commencé à les travailler. Et j'ai commencé à ouvrir mon cœur à Christ pour voir comment ça marchait dans mes émotions. Et je dois vous dire que Dieu m'a fait un bien infini. Je suis de temps en temps triste. Je sais que ma fille et mes petites filles sont en vacances en ce moment en Normandie. Mais je n'aurai pas le plaisir de les voir. Mais j'avais d'abord besoin que Dieu me touche sur le plan émotionnel. Que je sois guéri, qu'il me visite. La thèse de Peter Scarzero est la suivante. La santé émotionnelle de l'Église ne dépasse pas la santé émotionnelle des leaders. Et moi, c'est ce que j'observe qui est à l'origine de difficultés dans les églises autour de moi. Pourquoi ? Parce que des leaders n'ont pas réglé leur santé émotionnelle. Si quelqu'un adresse une critique ou une remarque concernant l'Église, ils la prennent pour eux et ils sont blessés. Et du coup, comment est-ce qu'ils réagissent ? Ils réagissent par l'autoritarisme. Dans une situation précise, j'ai entendu des anciens qui ont dit « Il faut vous soumettre !» C'est l'autoritarisme. Je vois monter l'autoritarisme dans nos églises, mes amis autour de moi. Même un certain conservatisme théologique peut être le résultat d'une insécurité personnelle, d'un inconfort émotionnel. Et parce qu'on n'est pas bien dans sa vie intérieure, on se rabat sur la théologie. Et on défend des combats parfois. Certaines tensions dans nos églises ont leur source non pas dans une mauvaise compréhension de l'Écriture, mais dans un dysfonctionnement personnel, où notre conformation n'est pas à l'image de Christ. Je ne dis pas par là qu'il n'y a jamais de tension théologique, hein, comprenez-moi, mais pas toujours. Un des grands dangers de certaines expressions du christianisme est la façon insidieuse dont nous pouvons utiliser Dieu pour fuir Dieu ou utiliser Dieu pour nous fuir nous-mêmes. Si nous n'avons pas réglé notre conformation, nos différents réservoirs, nous allons le fuir et nous allons fuir Dieu. Alors, un rappel. Mon schéma, vous vous souvenez, c'est ce que nous avons vu ensemble, le silence, l'écoute de Dieu, la repentance, la conformation. Mais quelle est la réalité ? La réalité, c'est que 80% des serviteurs de Dieu se sentent découragés. 70%, j'en ai déjà parlé, n'étudient la parole de Dieu que pour préparer leur message. 45% arrêtent leur ministère durant un temps à cause du burn-out. Et vous savez quelles sont les conditions ou les causes d'abandon du ministère ? Plus d'un serviteur de Dieu a déjà envisagé d'abandonner son ministère. C'est une étude des cahiers pastoraux. Il y a eu toute une enquête qui a été faite. C'était une thèse de doctorat d'ailleurs. Parce qu'ils souffrent de dépersonnalisation et de solitude. Parce que leur cahier de charge est absent, ambigu ou peu réaliste. Parce que la gestion du temps est difficile, parce qu'il y a une absence de marge et de limite. Parce que la philosophie du ministère, la culture du résultat, est basée sur la notion de succès. Parce qu'il y a pour beaucoup de serviteurs de Dieu un surinvestissement, un activisme, un perfectionnisme. Ça, c'est la réalité de beaucoup de ceux qui sont dans le ministère. Et ma proposition, le stress financier, j'allais oublier. Et ma proposition, c'est que tous ces aspects devrait être abordé dans un accompagnement mentoral. Comment êtes-vous accompagné? Vous vous rappelez, la conformation, c'est pour aujourd'hui, c'est basé sur les relations spirituelles. Quelles sont les relations spirituelles qui vous aident à avoir un équilibre qui vous amène à la ressemblance de Christ? Vous connaissez ça, le mentorat 360 degrés? Eh bien, regardez, vous devriez avoir un ou des mentors, mais en même temps, vous devriez être investi dans la vie de protégé. Vous pouvez avoir des pairs en interne. C'est ce que vous faites ici à l'occasion de ce congrès. Vous pouvez parler les uns les autres, vous pouvez vous écouter, vous pouvez parler dans la vie les uns les autres et vous faire du bien dans le partage et dans l'échange. Et puis il y a les pairs en externe. Quand les serviteurs de Dieu vont à une conférence, vont se former, ils ont la possibilité d'avoir d'autres à qui ils peuvent parler de leurs difficultés et s'influencer et s'accompagner par des relations spirituelles les uns les autres. Alors bien sûr, je sais, une des difficultés, c'est de trouver un mentor. Mais quand même, je vous encourage, vous tous, en particulier les plus jeunes, essayez d'avoir un mentor à qui vous donnez le droit de regarder dans les angles morts de votre vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je travaille en équipe, j'ai un cahier de charge, je suis évalué tous les ans. Mais qui a le droit de regarder dans mes angles morts? Les angles morts, c'est notre conformation, là. C'est notre vie émotionnelle. Alors, j'ai ajouté ce matin un extrait du livre de Martin Sanders pour vous montrer aussi l'importance du mentorat entre pairs. Ceux qui cherchent en vain un mentor devraient réfléchir à la possibilité de recourir au modèle mentorat entre pairs. Il permet aux membres d'un groupe de compter sur les autres pour relativiser les situations. Ils écoutent, posent des questions et cherchent à être guidés spirituellement. Tout ce qu'ils pourraient en fait attendre d'une relation mentorale traditionnelle. Mais avec ce modèle, les mentors n'ont pas besoin d'être âgés ou du même sexe. Les perspectives offertes par un groupe de mentors sont souvent plus nombreuses que celles propres à une relation de 1 à 1. Donc développez la vulnérabilité entre vous, leaders. Laissez-vous corriger les uns par les autres. Bien sûr, pas à tout le monde systématiquement, n'importe quand, mais choisissez des personnes de confiance. Regardez comment Paul était accompagné lui-même. Il avait Gamaliel comme mentor. Il avait des protégés, c'était Tite et Timothée. En externe, il a travaillé avec Luc, qui l'a influencé. En interne, c'était Pierre et Barnabas. Mais quand la batterie est vide, quand les réservoirs sont vides, nous savons ce qu'il faut faire pour recharger notre réservoir spirituel. Nous savons ce qu'il faut faire pour recharger notre réservoir relationnel. Mais qu'est-ce qui se passe quand la batterie est vide? Nous devons être attentifs à avoir nos réservoirs aussi rapidement que possible pleins, parce que s'ils se vident, ils commencent à vider notre batterie. Et quand notre batterie est vide, ça, c'est la dernière étape avant le burn-out. En 1997, ça faisait 19 ans que ma femme était malade. J'ai pris des vacances pendant 3 semaines chez les amis. Et après ces vacances, je devais repartir pour une évangélisation. Et je ne pouvais pas affronter ça. J'y suis allé à reculons. Je ne supportais pas l'idée de devoir aller prêcher. Je me rappelle très bien où c'est. Les gens ont dit c'était formidable, moi je vous dis c'était terrible pour moi, terrible pour moi. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas si j'avais perdu mon appel d'évangéliste, si je n'étais plus prêt à être disciple. Je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Et finalement je suis allé voir un médecin qui était ancien dans son église et ancien missionnaire. Je lui ai dit, est-ce que je viens te voir au cabinet ou je viens chez toi? Il dit, non, viens chez moi, viens chez moi. Et nous avons parlé toute la soirée. Et à la fin de la soirée, il m'a dit, Alain, Ça fait 19 ans que ton épouse est malade et je ne pense pas que tu as un problème avec l'épreuve que Dieu t'a confiée. Mais je pense que tu as oublié que 20 ans d'épreuve, ça épuise sur le plan émotionnel. Et on ne peut jamais dire pour quelle raison quelqu'un fait un burn-out. Il a dit, mais si tu faisais un burn-out dans les prochains temps, j'en serais pas étonné. Donc il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire, c'est prendre 3 mois de congé. 3 mois de congé pour moi. Quand on a une radio à gérer, quand on a 2 stagiaires IBG, quand on a une femme à l'hôpital, quand on a une fille qui fait ses études, quand on a une collaboratrice, prendre 3 mois de congé. Alors j'ai décidé, et ma mission m'a dit, Alain, tu as encore 1 mois et après tu vidanges ton agenda. Alors j'ai décidé d'aller 3 semaines chez les amis, revenir 1 semaine, repartir 3 semaines, ainsi de suite, pour les 3 mois à venir. Je suis arrivé à mon premier mois de vacances, je ne savais pas ce que je devais faire. C'était terrible de se retrouver d'un seul coup avec plus rien. Heureusement, j'avais amené avec moi une Bible neuve et j'ai calculé combien de chapitres je devais lire par jour pour relire ma Bible en 3 mois. Et pas seulement relire, non, avec les couleurs de Rav Chalice, hein, vous vous rappelez. Hein. Donc je me suis levé assez tôt le matin, j'ai passé toute la matinée à lire la parole, et l'après-midi, je marchais dans la forêt, je pleurais comme un gosse. J'étais complètement épuisé. Et heureusement, le frère chez qui j'étais pour ce temps de vacances m'a dit, Alain, je vais téléphoner à un pasteur que je connais, il va te prêter sa moto. J'aime faire de la moto. Et normalement, une moto, ça ne se prête pas. Et le gars a dit, il peut avoir ma moto s'il me donne sa voiture. Donc je suis allé chez le gars, il m'a dit, voilà les gants, voilà les clés, voilà le casque. Et j'arrive, c'était une énorme Ténéré que je n'avais jamais conduit. Et je me suis dit, il me prête sa moto. Après, je lui ai demandé, mais t'es fou, tu m'as prêté ta moto là. Il a dit, oh, c'est très simple. Dans l'entrée de ma cour, il y a du gravier. Donc soit tu sais piloter une moto et tu sors dans le gravier, soit tu ne sais pas piloter, tu tombes et tu ne l'aurais pas eu. Donc je suis sorti de la cour dans le gravier sans tomber avec cette grosse machine. Et après, tous les après-midi, je sillonnais les Vosges du Nord pendant des heures à m'éclater, à faire de... Oh là là, j'aimerais bien retourner faire de la moto comme ça, c'était génial. Je suis reparti après, le deuxième mois, et le troisième mois, la fin du deuxième mois, quand j'allais repartir pour mon troisième mois de congé, l'hôpital a appelé en me disant, Monsieur Stamp, on pense que votre épouse sera décédée à Noël. Alors j'ai dit, dans ce cas, je ne repars plus, mais je continue à faire mon break. Je continue à lire ma Bible. Je ne me remets pas au travail. Je respecte mon troisième mois de repos. Et là, j'étais en train de lire un livre qui m'a beaucoup aidé à comprendre le sens de l'épreuve. Et je me rappelle qu'à un moment, le téléphone a sonné. J'ai dit, j'espère que ce n'est pas ma femme. J'ai encore des choses à lui dire. J'avais besoin de lui demander pardon, parce que je n'avais pas été à la hauteur. Et vous savez pourquoi je n'avais pas été à la hauteur dans l'accompagnement de mon épouse? J'avais fait mon possible, c'est pas ça la question. J'ai réalisé que j'avais creusé des citernes crevassées pour trouver des solutions moi-même, au lieu d'être en contact, en relation avec Dieu, et recevoir de Dieu ce que je pouvais apporter à ma femme. Et ça, c'est grave. Vous offrez le meilleur! Mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est ce qui vient de Christ. J'ai pu aller voir mon épouse et lui dire, écoute, je te demande pardon. Elle a dit, mais je n'ai rien à te reprocher. J'ai dit, je sais que tu n'as rien à me reprocher. Mais moi, je sais que je n'étais pas dans une relation où Dieu aurait pu me donner tout l'amour dont j'avais besoin pour toi. Elle m'a pardonné. Hein. C'est mieux hein, de se pardonner avant qu'après. En fait, mon épouse est décédée à Pâques. Il y avait encore 3 mois très difficiles, où à plusieurs moments, on nous a dit, vous pouvez amener ces vêtements, ça sera pour cette nuit. Et ce n'était pas pour cette nuit. Heureusement que Dieu m'a donné ce temps pour recharger ma batterie principale. Parce que pendant ce temps, et pendant cette lecture intensive de la parole de Dieu, j'ai eu l'impression d'un tsunami. J'avais l'impression qu'il était marqué à toutes les pages. Mais Dieu nous aime et il ne nous punit pas à la hauteur de notre péché. Sa grâce est infinie. J'avais l'impression que c'était marqué à toutes les pages. Et j'ai ressaisi la profondeur, la dimension de la grâce de Christ pour moi. Et j'ai pu la transmettre à mon épouse avant qu'elle meure. Peu de jours avant son décès, je lui dis, qu'est-ce qui va te rester de ces 20 ans d'épreuve? Elle m'a dit, oh là là, c'était tellement dur. Bien sûr. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce qui va te rester? Elle m'a dit, la grâce de Dieu. Ne laissez pas votre équilibre personnel vous entraîner à vider votre réservoir principal, votre batterie principale. Nous arrivons à la fin de notre congrès. J'ai montré que nous vivons et que nous sommes à l'image de Christ en pratique. Quand le silence, l'écoute, la contemplation de Dieu, en développant une repentance continue, tout ça sous l'action et la direction du Saint-Esprit, que nous avons besoin ce matin de travailler notre équilibre personnel en étant accompagnés par d'autres. Ne cherchez pas et n'imaginez pas que vous allez faire tout ça tout seul. Conclusion. On ne devient un chef en devenant serviteur de tous. On découvre la puissance dans la soumission. Le principal symbole de l'état radical de serviteur est la croix. Jésus s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Mais notez bien ceci, non seulement Christ est mort sur la croix, mais il a mené une vie sous la croix. La voie de la croix, la voie du serviteur souffrant était essentielle à son ministère. Jésus a vécu une vie sous la croix, dans la soumission à tous les êtres humains. Il a été le serviteur de tous. Il a catégoriquement refusé les acquis culturels de position et de pouvoir lorsqu'il a dit « Ne vous faites pas appeler rabbi, ne vous faites pas appeler directeur ». Au cours de sa vie sous la croix, Jésus a bousculé les habitudes de son époque en prenant les femmes au sérieux, en étant toujours prêt à se mêler aux enfants. Il vivait sa vie sous la croix, lorsqu'il prit une serviette et lava les pieds de ses disciples. Jésus, qui aurait facilement pu appeler une légion d'anges à son aide, a choisi la place, la mort sur la croix du calvaire. La vie de Jésus fut une vie de soumission et de service. La mort de Jésus fut une mort de conquête par la souffrance. C'est à ça que nous sommes tous appelés, mes frères et sœurs. Vivre sous la croix. Et je vous laisse avec cette objectif pour votre union d'église, mettre l'accent sur la conversion, former des disciples, nourrir et développer une vie spirituelle, préparer de manière intentionnelle la prochaine génération de leaders, devraient être les passions premières que l'église adopte et met en œuvre. Et je vous laisse sur ce défi et que Dieu vous bénisse.